Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonjour tout le monde, vous écoutez bien l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Je suis Sarah, votre animatrice pour cet épisode. Et d'habitude, vous ne m'entendez pas parce que je suis de l'autre côté de la console à m'occuper de la technique, mais j'ai récemment découvert la BD Super Cyprine que j'ai adorée et j'avais très envie de vous en parler. C'est pourquoi aujourd'hui, nous recevons l'autrice grenobloise de bande dessinée Tess Kinski, à l'origine donc des aventures de Super Cyprine. Bonjour Tess.
Bonjour Sarah.
Super, ça va?
Ouais, ça va et toi?
Ouais, je suis contente que tu sois là.
Moi aussi.
Super Cyprine, un nom et un titre qui font probablement tiquer vos oreilles. Voici ce qu'on lit sur la quatrième de couverture du premier tome. Cyprine, nom féminin, sécrétion vaginale, signe physique du désir sexuel féminin. Au cœur de Pigalle, Cyprine travaille dans un cabaret déjanté et se lie d'amitié avec une troupe de sublimes créatures et performeurs de la nuit. Mais s'assumer en tant que jeune femme, qui plus est derrière un bar, n'est pas facile. Cyprine voit, impuissante, son corps commenté, rabaissé, humilié. Alors, au harcèlement de trop, elle prend une décision, se venger. Car sous ses cheveux roses et son air de poupon, Cyprine porte en elle un terrible pouvoir. Et vous, que feriez-vous si vous aviez entre vos cuisses une arme secrète pour combattre l'oppression masculine ? Super Cyprine, c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui découvre, dans des circonstances un petit peu dramatiques au début, que sa Cyprine est corrosive. Ça l'isole au début, comme je disais, et elle navigue malgré dans la vie avec cette caractéristique qu'elle va finir par utiliser comme un super pouvoir vengeur, le pouvoir de Super Cyprine. C'est donc une émission dans laquelle on va parler, je préfère vous prévenir, de harcèlement de rue, d'agression physique et sexuelle et de violence masculine. Et je vais déjà poser ma première question à Tess. La première question qu'on se pose probablement tous et toutes, mais d'où est venue cette idée de pouvoir à base de Super Cyprine ?
Je sais pas d'où ça m'est venu exactement, la Cyprine corrosive. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'idée de l'histoire, c'est venu d'un harcèlement de rue banal. C'est des situations où j'ai peur, je réagis pas. Et après, du coup, je me fais toujours un scénario dans ma tête de comment j'aurais dû réagir. Et du coup, là, j'ai imaginé une alter ego, une femme qui n'aurait pas peur, en fait, de répondre. Et comme j'imaginais une sorte de Catwoman dans ma tête, je suis partie, dans un chemin de réflexion spontanée. Et je suis rentrée chez moi et j'ai écrit toute l'histoire. Enfin, le résumé, quoi, mais... Et je me suis dit, ce serait quoi une fille qui n'a pas peur, en fait ? Parce que, bon, là, je vais rentrer dans des trucs un peu durs, mais ce qui sous-tend un peu la peur dans la rue, c'est qu'il y a toujours un peu ce truc d'avoir peur de se faire agresser, de se faire violer. Bon, c'est le pire des scénarios, mais ça dépend comment on est rationnel dans sa tête. Moi, ça va très loin, très vite. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que c'est une femme qui n'a pas peur de se faire violer ? Ce serait quoi, en fait j'ai pas pensé à un pouvoir, mais j'ai pensé à ça. Enfin, je voulais pas qu'elle ait un super pouvoir, mais je me suis dit, en fait, elle aurait forcément un truc. Et ce serait que. Ce serait intéressant que sa Cyprine soit corrosive. Et ça, je sais pas d'où ça vient.
Ouais.
Ouais.
Ça a popé d'un coup.
Ouais,
quoi,
d'un coup,
finalement.
Ouais. Après, j'ai des inspirations inconscientes, je pense, sur le moment dans ma réflexion, mais il y a des films, par exemple. Teeth, avec le vagin qui a des dents, en fait. Qui... c'est génial. Après, il y avait...
C'est un film d'horreur assez cool.
Ouais, c'est un film d'horreur qui est trop
bien. Si vous voulez aller le voir, il faut être averti quand même. Mais
oui,
ouais.
Mais il est bien, je trouve. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça m'a marqué.
Ouais.
Après, il y a aussi
Et du coup, effectivement, elle est dans cette situation où elle se fait agresser. Alors, c'est beaucoup plus trash que ta bébé.
Oui.
Mais c'est très graphique, d'ailleurs. Ouais. Effectivement, après, derrière, elle va se venger avec ce mythe des dents dans le vagin.
Ouais. Et après, il y avait aussi It Follows. Ça, c'est un autre film d'horreur avec... Mais là, c'est une MST, mais du coup, ça place un peu tout le monde au même niveau. Mais bon, ça, c'est plus esthétique. Mais en fait, tous ces trucs, en fait, de pouvoir lier à l'intimité, aux parties... Et aussi, je pense qu'il y avait ce truc de renverser un peu le stigmate enfin le stigmate, c'est un mauvais mot, mais je sais pas, quand on a un sexe féminin, enfin désolée si j'emploie pas le mot, on a, c'est un peu le lieu de toutes les peurs. On est éduqué en mode ton corps est un temple, il faut faire attention, tes premiers rapports sexuels, il faut que ce soit le bon. Enfin, je dis vraiment les trucs un peu clichés, mais.
Ouais.
Et du coup, c'est un peu le lieu de tous les dangers, en fait. Puis on est éduqué quand on est toute petite en disant ah, nous, on a un trou, on n'a rien. Enfin, c'est trop bizarre.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais. C'est vraiment comme une absence de sexe.
Et du coup, on grandit avec ce truc de. Puis on a nos règles et tout. Et là, ça devient encore un autre truc. Bref, c'est un apprentissage. On a du mal à l'apprendre. Et j'avais aussi envie, je pense, inconsciemment, de jouer avec ça, quoi. Et de dire, en fait, non, ça peut être un lieu de pouvoir et de danger, quoi. Enfin, vraiment de renverser le truc et dire nous aussi, ça peut être un danger. Ouais. Et en fait, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a des filles qui ont vraiment des cyprines avec des pH acides et. Pas corrosif, mais genre, ça
peut causer,
des problèmes, quoi. Et j'étais, ah ouais, bah ça fait sens quand même parce que.
Ouais, finalement. Voilà. Ouais. Ah ouais, je savais pas du tout. Et effectivement, ça peut même parler au-delà du concept, quoi. Ok, ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ben, c'était... oui, ton idée, c'était d'explorer des questions personnelles et de renverser, du coup, une vision des parties intimes dites féminines. Et aussi des situations qu'on peut retrouver en tant que femme. Et je me demandais, est-ce que tu t'es posé des limites dans cette exploration?
Oui. Parce qu'à la base, je voulais aller très loin, justement, dans le titre. Enfin... J'étais inspirée par... j'avais vu quand j'étais petite, j'étais tombée sur une série allemande, je crois. Vous savez, les téléséries, là, qu'on voit, quand on était petit, à des heures un peu improbables, genre à 13 heures. C'est pas des trucs grands... c'est pas des gros budgets, quoi.
C'est un espèce d'exemple à donner.
J'ai pas le nom des trucs, mais je me rappelle que j'ai vu... une série ou un film, je sais pas ce que c'était, mais c'était des femmes qui étaient en noir et tout, qui étaient un gang et qui agressaient les hommes. Et c'était horrible, elles les humiliaient tout, enfin vraiment comme nous on vit, mais de le voir inversé, ça m'a aussi vachement fait d'effet parce que je me disais putain, elles ont du pouvoir, elles sont, pardon, je jure, je jure énormément.
C'est autorisé.
Et c'était vraiment puissant, enfin moi ça m'a marqué quoi de voir des femmes qui sont capables de, elles avaient des grosses chaînes en fait et elles faisaient vraiment peur aux hommes quoi, c'était genre elles les humiliaient et tout, c'était horrible et je me souviens plus de la question. Pourquoi
non
je
mais je me
ça
ouais parce que je te demandais si t'étais posé des limites et là t'avais vu un truc super trash
et du coup et puis il y a aussi le truc de dire au départ je me disais bon bah est-ce qu'elle va aller jusqu'à dans des rapports sexuels où elle joue avec sa cyprine et tout, bon. Où en fait, elle s'en sert vraiment en se faisant passer pour une victime et après, elle renverse le truc. Enfin, et je me suis dit, ça va trop loin. Et en fait, je voulais pas faire une BD qui trigger les femmes parce que, en fait, même quand c'est inversé, c'est hyper horrible, en fait, de voir des gens se faire violer ou humilier.
Ouais.
Donc, il fallait quand même qu'il y ait une histoire qui raconte... Si jamais elle se servait de son pouvoir, il fallait que, dans ma tête, il fallait que ce soit justifié.
Ouais.
Il fallait qu'il y ait quelque chose qui déclenche, qui soit et un peu moral, quoi. Enfin, en fait, je voulais pas que la violence soit gratuite parce que c'était trop choquant. Et même pour moi, en fait, à dessiner, c'est très, très désagréable. Enfin, c'est horrible. Ouais. Je déteste. Et pourtant, j'ai fait que ça. Surtout le tome 2, ça va beaucoup... Ouais. Enfin, c'est un peu plus violent. Mais bon, on sort un peu de la violence sexuelle dans le tome 2. Mais...
Ouais.
Mais... Ouais, même moi, j'étais pas à l'aise avec les représentations. Donc, ouais, j'ai joué avec mes limites à moi, je pense.
Ouais.
Et je voulais quand même que ça parle de colère, de catharsis. En fait, j'avais envie que les personnes lisent ça et que ça leur fasse du bien, qu'elles se sentent empouvoirées parce qu'elles lisent et pas qu'elles soient dans des moments où c'est horrible, c'est trop. Genre, je voulais pas quoi. Donc, le premier, il est quand même, je trouve, assez soft, moi. Et dans le deuxième, j'ai voulu aller plus loin.
Ouais.
Mais bon, il y a des gens qui trouvent que je vais trop loin dans le deuxième. Il y en a qui me disent « Ah non, c'est cool ». Bon, après, c'est aussi nos limites à chacun, chacune. C'est compliqué de faire des généralités, quoi.
Parce que, justement, quand tu dis « Toi, t'explores tes propres limites », fatalement, ça rebondit sur celles des autres. Oui. Et bah, c'est des BD qui sont matière à débat, enfin à discussion, ouais. Du moins, de toute façon, c'est pas des BD qui sont anodines. Moi, du coup, je les ai relus pour préparer l'interview et je me disais, ah, mais ouais, mais il y a aussi ça dedans, il y a aussi ça, et j'ai envie d'en parler avec mes amis, etc. Mais justement, on va parler un peu plus en détail du tome 1. Et après, on pourra parler un peu du tome 2, pardon, ça te va. Effectivement, le tome 1, c'est... Je te le dis comme je le pense, rectifie-moi si c'est pas tout à fait ça. Mais du coup, c'est un tome, le tome 1, qui vient aborder des questions existentielles, mais au travers des aventures d'un personnage principal. Du coup, c'est vraiment elle qui se cherche. C'est une expérience un peu individuelle par rapport au tome 2, hein, qu'on pourra revoir après. Du coup, effectivement, Cypri découvre sa caractéristique de cyprine sexuelle et suite à une agression de trop, elle décide de se venger, mais pour elle-même. Et je me demandais, du coup, quelle direction tu avais voulu donner à Cyprine dans ce tome 1. Tu en as déjà un peu parlé, du coup, par rapport aux limites que tu t'es données, mais là, on a parlé des limites. Qu'est-ce que tu as voulu pour Cyprine comme développement ?
Ouais. En fait...
Parce qu'il y a aussi les personnages secondaires qui viennent beaucoup l'accompagner...
Oui.
Parce que tu disais, oui, t'as fait ton cheminement toi par rapport aux choses que tu voulais explorer, mais pour ton personnage, du coup, elle a un chemin tout au long de la BD.
Oui.
Ouais,
il y a plein de mécanismes conscients et inconscients, donc je vais parler des mécanismes conscients, mais parce que souvent on me pose des questions, je sais pas quoi.
Ouais, mais c'est pas grave.
C'est un récit aussi initiatique, elle grandit.
Absolument.
D'abord, ça commence, elle est ado, elle est au lycée, elle découvre qu'elle a la cyprine corrosive, donc ça, elle est trop mal parce que. Bah, elle blesse des gens qu'elle aime bien, enfin, c'est cool quoi, elle découvre la sexualité de manière assez cool, ça c'est un truc que j'ai consciemment voulu montrer.
Ouais.
Une découverte, un apprentissage de la sexualité bienveillante avec des mecs hétéros, mais avec des mecs choux qui cherchent son plaisir, enfin, je voulais montrer le plaisir des femmes, parce que sinon on le montre pas, on le voit pas.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ce qui est sous-jacent dans ma question, c'est qu'il y a quand je disais, il y a beaucoup d'éléments, effectivement,
oui.
Dès le début, tu vas parler de plaisir sexuel dans les premières pages, et c'est pas anodin, je trouve.
Oui, j'avoue, j'ai voulu dire beaucoup de choses. Mais, et du coup... Donc c'est comme si elle était punie d'avoir une sexualité cool parce que bon, on n'y arrive pas quoi. Enfin, c'est un peu compliqué dans nos narrations actuelles. La sexualité féminine, c'est encore un truc, je sais pas, c'est pas à la juste place, je trouve. C'est soit trop, soit pas assez, soit on a honte, soit on est hypersexuel, soit puis l'hypersexualisation aussi dans les clips, dans un type de musique et tout. Moi, ça me questionne grave. Bref, je m'égare.
Mais vas-y, hein, mais... on est là pour ça. Hein.
Bah, j'ai pas de réponse encore. Je tourne autour de ces questions-là. Mais en tout cas, donc elle commence, c'est cool. Elle est pas non plus. Enfin, il y a des gens qui m'ont dit ah mais elle est nympho. Je dis ah mais trop pas. En fait, juste elle kiffe quoi.
Enfin, moi,
je
sais pas.
Ça me rassure. Mais je sais pas, au lycée, moi, je me souviens que c'est vraiment la période de la vie où... Bon, alors sûrement pas pour tout le monde, mais moi, j'étais pétée d'hormones, je pensais que à ça, quoi. et pourtant, je faisais pas des trucs de ouf et tout.
Ouais.
Et j'étais un peu quand même... Voilà, on est un peu timide au départ et tout. Mais je pensais qu'à ça. Et j'ai eu des expériences assez cool, quoi. Ça a commencé de manière... C'était pas... Génial, parce que les mecs, quand même, c'est l'époque, c'est la période aussi où ils parlent beaucoup, ils sont quand même toujours un peu humiliants, ils vont toujours se vanter de leurs trucs et tout, donc je faisais grave gaffe. Mais bon, j'ai eu plutôt des bonnes expériences, c'était cool et c'était bien, quoi. Donc voilà, c'était un truc que je voulais montrer.
C'est intéressant que ça commence déjà comme ça, comme quelque chose de naturel
et
qui fonctionne. Et pas effectivement une galère où tu
ou
une galère ou un fantasme autour de un jour j'aurai une vie sexuelle tu vois que tu retrouves dans beaucoup de romans même modernes en fait donc moi je trouvais ça intéressant de démarrer comme ça et du coup après elle change de cap quoi
après donc du coup elle se fait harceler humilier parce que ça devient la risée du lycée puis elle a fait du mal tout le monde dit que c'est une qu'elle est méchante enfin bref et tout ce truc quoi du mal et tout de la femme qui incarne le mal et du coup elle part à Paris, c'est la fin de ses études, tout ça se fait comme ça. Elle commence sa vie d'adulte à Paris. Donc là, elle est recueillie dans un cabaret, parce que là, le cabaret, c'est vraiment parce que j'adore le cabaret.
Ouais, d'accord, je me demandais aussi.
J'allais tout le temps au cabaret à cette période,
Ouais.
Et quand j'ai écrit le truc, je me suis vraiment dit... Enfin, je vais vraiment tout vous dire, mais vraiment, c'était... Vas-y, fais-toi kiffer ton histoire, tu voudrais qu'elle se passe où ? Ah bah dans le cabaret, vraiment ça m'est venu comme ça, ça va être le cabaret parce que j'allais vraiment beaucoup au cabaret de Madame Arthur à Paris, qui est vraiment le meilleur cabaret de Paris, j'en ai pas vu d'autres mais je sais que c'est le meilleur. Et vraiment les performeuses, c'est vraiment des artistes de dingue, enfin bref. Et c'est un endroit où je sais pas, ça fait du bien, quoi. Et du coup, je me suis dit, oh, ce serait génial qu'elle, genre, qu'elle soit une petite souris dans le cabaret, qu'elle grandisse dedans. Et genre, c'était juste mon rêve, en fait.
Ouais, d'accord.
Et donc, c'est juste ça que j'ai fait. Et, mais bon, c'était intéressant aussi de montrer des masculinités différentes, etc. Et douce.
Ouais, moi, je trouvais que ça lui donnait un cadre qui lui permettait de s'épanouir là-dedans. Et puisqu'elle a des personnages autour d'elle qui sont bienveillants et qui explorent d'autres manières aussi la violence que ces personnages.
Oui, et je voulais aussi montrer pas que des hommes horribles, parce que c'est pas réaliste, quoi. Et du coup, elle va quand même, je voulais qu'elle se serve de son pouvoir, sinon ça sert à rien. Donc il y a un moment, il y a un mec qui lui dit un truc horrible. Là, je me suis inspirée de la Ligue du LOL, c'est des journalistes. Je suis vraiment allée faire des recherches sur ce qu'ils ont dit, mais j'étais mais je suis sûre que si je mets ça dans ma BD, on va dire que j'exagère, c'est que je l'ai. Que j'ai cité tel quel ce qu'il y a. Enfin, toutes les phrases que j'ai en style, c'est vraiment des vraies phrases que je suis allée chercher, quoi.
Du protagoniste Charles.
Et lui, c'est tous les journalistes de la Ligue du LOL qui ont harcelé des femmes en disant des trucs, mais vraiment, mais j'aurais même pas imaginé. Bref, comme d'hab, de toute façon. Et du coup, bon, elle pète un câble, elle fait son truc de trop, elle va se servir de sa cyprine pour vraiment le blesser, quoi, très très gravement. Et après, bon, je sais pas, je spoil.
Bon,
en gros, elle va. Bon, elle va pas aller à fond dans la violence, quoi. Elle va quand même avoir des remords de ce qu'elle a fait. C'est pas cool. Justement, ça, c'est un truc que je voulais montrer. Enfin, parce que c'est la violence, c'est une question autour de laquelle je tourne énormément. Est-elle nécessaire? Est-elle pas nécessaire? Est-ce que c'est bien? Je voulais pas montrer une violence gratuite non plus, parce que c'est ce que je reproche un peu. Mais j'ai pas envie de créer la même chose.
Mais cet événement-là, du coup, je trouve qu'il crée la discussion avec les autres personnages et après, t'as envie d'en discuter dans la vraie vie. Moi, je trouve, c'est pour ça. Enfin, je trouve qu'elle est hyper entourée, Cyprien. Oui. Comme je disais, quoi, elle a des camarades qui vont explorer différemment cette question de la violence, qui savent y répondre aussi, qui ont un peu plus l'habitude, qui ont un autre point de vue, parce qu'on a des personnages queer. C'est comme si t'explorais d'autres pistes à travers les autres personnages aussi.
Ouais, carrément. De toute façon, chaque personnage a un intérêt et sert une idée que j'ai. Et moi, j'ai pas les idées claires, surtout. En fait, ce qui est trop bien avec la fiction, c'est que tu peux confronter toutes les idées qui sont en toi et tu les personnifies. Et du coup, bah, tu peux faire discuter tes idées à travers des personnages. Ouais. Et j'ai pas les réponses surtout, mais en fait, je me régale, quoi. C'est un kiff de personnifier. Et dans le tome 2 aussi, il y a d'autres, elle personnifie d'autres idées.
Mais je trouve que ça se ressent vachement. C'est pour ça que je dis que ça. Pour moi, du coup, je l'ai lu une deuxième fois. À chaque fois, ça m'a donné envie de discuter des sujets. Mais mais en fait, j'aimerais réagir comme ça. Puis en le relisant une deuxième fois, je me dis, je pourrais réagir comme ça aussi. Franchement, il y avait vraiment de la matière pour ça. Ces personnages, ça se voit qu'ils sont là pour entourer la fiction, quoi. Je trouve, en tout cas.
Tu as vu toutes mes ficelles.
Oh, et on démasqué. Du coup, on peut parler peut-être un peu plus du tome 2 maintenant, parce qu'à la fin du tome 1, sans spoiler, sans spoiler grandement, Cyprien arrive à trouver un moyen de transformer, en fait, elle finit par trouver un moyen de transformer l'essai, on va dire ça comme ça, et à la fin, elle est, on va dire, plutôt apaisée, du moins, elle est entourée et apaisée. Et dans le tome 2, donc elle a ce mode de vie, puis qui finit par la lasser, finalement, au quotidien. Et elle découvre un forum sur lequel les femmes viennent raconter les agressions et les harcèlements qu'elles subissent au quotidien, de la part des hommes, donc. Et Cyprien devient obsédée par ce forum. Et elle est aussi obsédée, en parallèle, par des cas mystérieux de vengeance contre ces agresseurs qui se propagent donc dans Paris. Et donc, comme tu le disais déjà, c'est un tome où la violence est plus exprimée encore. Je voulais lire la dédicace que tu avais mise au début, d'ailleurs. C'est « À la violence tapie en chacune d'entre nous, puisse-t-elle au moins se libérer dans nos imaginaires ?» Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, par rapport à cette exploration? Désolée, en fait, je trouvais la dédicace trop belle. C'était pas pour te piéger.
D'accord, mais c'est vrai.
Du moins, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'exploration de la violence dans ce tome 2, du coup, qui est différent?
Alors, moi, je me pose la question, est-ce que je suis pour de la violence dans la vie réelle, quoi? J'ai fait plein de sports de combat, j'étais à Donf et tout, mais... Mais je suis contre. Mon projet de société intime, enfin de rêve, c'est pas qu'on se mette tous à se bastonner en fait, parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais ma fille, genre elle va faire des sports de combat comme ça, elle pourra genre répondre à la violence. Et tu veux pas que nos fils en fait soient pas violents comme ça, hop, ça redescend tout le monde quoi, parce que c'est pas un projet de vie souhaitable, je pense. Mais par contre, ce que je trouve très puissant, c'est quand même les narrations qu'on se raconte. Et je pense qu'il y a énormément de narrations autour des genres féminins et masculins. Enfin, moi, j'ai eu besoin beaucoup ado de regarder des films où les femmes, elles étaient violentes. Je sais pas, j'ai eu besoin de voir des femmes fortes, en fait, même fortes physiquement, parce que moi, j'avais un physique plutôt frêle, comme on disait, je suis pas une grande sportive. Et du coup, je me sentais ultra vulnérable, et puis c'est hyper renforcé en fait dans les récits, dans les séries, dans les films, dans les livres. Il y a toujours un moment, une meuf qui se fait soit embrasser de force et tout, et elle résiste pas en fait, les femmes, jamais. Et en fait, du coup, ça crée, je trouve, un écart qui est trop grand par rapport à la réalité de force physique. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit, si je me fais agresser, je peux rien faire. C'est-à-dire, à partir du moment où un mec va me mettre ses mains, va me prendre mes poignets, je pourrais pas m'enlever, en fait. Et en fait, c'est faux. Déjà, il y a plein de techniques pour ça. Mais en fait, la force physique entre les hommes et les femmes, elle est pas aussi grande que ce qu'on se raconte. Et en fait, ça c'est la puissance des récits, quoi. C'est pour ça qu'on est tétanisé, qu'on a peur tout le temps et qu'on se dit on pourra jamais se défendre. Mais en fait, si, on peut se défendre. Enfin, moi, il m'est déjà arrivé. Vraiment, j'ai eu vraiment très peur une fois. J'ai réussi à me défaire de l'emprise physique d'un mec. Et en fait, j'avais tellement la. Bref. C'est possible, même quand et le mec est grand et fort, et que nous, enfin ça dépend de l'énergie qu'on a, enfin il y a plein de trucs.
Le fait de pas se défendre, c'est une construction, quoi.
Voilà,
c'est
exactement. Voilà, on va rester sur ça, sinon je vais encore. Et du coup, et donc c'est renforcé par tous les films et tout qu'on voit, toutes les images en fait, dans les livres et tout ça. Et du coup, moi mon truc c'est de dire, enfin c'était vraiment ça, c'était très conscient, c'est de dire je veux au moins montrer l'inverse. Juste des femmes qui tapent, en fait. Mais en fait, c'est pas. Il y a pas de morale là-dedans, c'est juste vraiment. On a besoin de cet exutoire. J'ai besoin qu'il y ait des narrations qui montrent que des femmes peuvent se défendre, peuvent attaquer, même agresser, peuvent être agressives. Parce qu'en fait, l'agressivité, et ça, depuis que j'ai un enfant, je l'apprends vachement. J'écoute beaucoup de trucs sur la construction d'un être humain, en fait, et l'agressivité, ça fait partie de notre construction, enfin, pas de notre construction, c'est là, quoi. On a de l'agressivité en nous, mais tout le monde, en fait, il n'y a pas de genre associé à l'agressivité. Et en gros, chez les petites filles, on l'a fait taire, comme c'est pareil avec le désir, je crois, avec la sexualité. On tapisse ça vachement profond, on empêche l'agressivité sexuelle et violente, on va dire, de s'exprimer chez les femmes,
parce
et
qu'on on empêche chez les femmes. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, chez les femmes, on empêche toute émotion qui sortirait un peu d'un niveau zéro de l'émotion, vrai, finalement. Du coup, effectivement, l'agressivité en fait partie, et le désir en fait partie.
Ouais, exactement. Coup, et chez les mecs, c'est encouragé, chez les garçons. Et du coup, ça, c'est un truc, encore une fois, que je pense, c'est moi ce que je crois. Après, on peut débattre de ce qui est naturel, ce qui est culturel, ce qui est construit, ce qui n'est pas construit. Personne n'a la réponse. Tout le monde a des croyances, à mon avis, autour de ça. Moi, ce que je crois, parce que j'ai envie de croire ça, c'est que c'est quand même hyper renforcé par la construction, l'éducation et toutes les histoires qu'on se raconte. Et du coup, j'ai juste besoin d'avoir des espaces imaginaires où c'est juste, on peut voir quand on est une fille, qu'on se construit, qu'on n'est pas obligé de subir. Voilà, en gros. Après, je dis pas que c'est cool, je dis pas que j'ai envie qu'il y ait des femmes qui se bastonnent, qui aillent agresser des mecs et tout. Je dis juste qu'on a besoin dans nos imaginaires de le laisser exister. Il faut que ça existe, en fait. Parce que sinon, on est comme ça tout le temps et tout à subir des petites victimes fragiles et tout, on a peur. Ça me rend dingue, en fait. Voilà, donc c'est juste avoir des espaces.
Je pense que ça fonctionne, hein, parce que. Alors, ce que je n'avais pas dit, c'est qu'on s'est déjà rencontré avec Tess lors d'une précédente rencontre littéraire. Et une des personnes qui était là disait justement. Je ne saurais plus trouver les mots exacts, mais c'était en fait en lisant, je me suis dit, je ne suis pas seule. Je ne sais pas si tu te souviens.
Non, je ne me souviens pas.
C'était pas formulé exactement comme ça, mais si c'est. Enfin. pour moi, c'est des choses, je pense pareil, je prends les devants, et peut-être je me trompe, mais c'est des situations où on a toutes rêvé, en fait, un jour de se venger et de faire encore plus de dégâts. En fait, c'est la colère et la violence qu'on subit engendrent de la colère et de la violence. Et ce que tu as mis en fiction, je pense que c'est des choses auxquelles la plupart, si ce n'est toutes les femmes, ont déjà pensé, à mon sens. Enfin, c'était mon cas, en tout cas, c'est certain. Et je me suis dit, c'est évident. Et dans des discussions que j'ai pu avoir avec des potes, t'as toujours des trucs, imagine si on faisait ça, même sur un ton un petit peu léger. Enfin, ça vient mettre en image des choses auxquelles, même si c'est pas la forme exacte que tu as mis en
image,
c'est certain qu'on y a déjà pensé. Et je pense que, enfin, ouais, t'as déjà ce truc de, je suis pas folle. Je suis pas folle dans ma tête. Je suis pas la seule à. Je suis pas la seule à avoir ces réactions, c'est certain, quoi.
Ouais.
Et moi, pour moi, il y avait un truc satisfaisant aussi, si je peux dire. Évidemment, moi, je te rejoins. J'ai pas envie de vivre dans un monde où la solution, c'est une violence contre une violence. Enfin, c'est un monde qui me fait peur aussi. Et en même temps, je la ressens. Tu vois, enfin, des fois, j'ai envie. Moi, en fait, si un mec s'en prend à moi aujourd'hui, j'ai envie de me bastonner aussi. Enfin, là, dans l'état actuel dans lequel je suis. Et il y avait un truc plaisant. Je vais même pas parler de plaisir coupable, mais c'était. Il y avait une sorte de soulagement à lire, genre, ok, ouais, je suis pas la seule à imaginer ça, et en fait, tu peux aussi prendre, parce que du coup, le deuxième tome s'appelle Le Gang des Justicières, et donc Cypri finit par rencontrer le Gang des Justicières, et en fait, il y a des éléments qu'on peut trouver problématiques chez ces personnes, mais on peut s'en inspirer aussi, je trouve, tu vois. Enfin, c'est la complexité de la question, et ce que tu disais, j'ai pas les réponses à toutes les questions, bah, moi non plus, et nous non plus, tu vois, et. Ouais, du coup, dans ce tome 2 aussi, tu t'étais posé des limites, peut-être, je sais pas. Enfin, tu voulais pas vous montrer de violence gratuite, en tout cas, ça, c'est ce que t'avais
non,
dit.
Non, jamais de violence non justifiée, parce que c'est ma limite, est-ce que ça sert à quelque chose ? Non. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je choque le public que j'ai envie de soulager, ça marche pas. Parce que moi, c'est vraiment l'idée d'avoir aussi une catharsis, c'est ça, d'être soulagée, de se faire du bien.
Moi, c'est ce que ça m'a
fait, en tout cas. Bah, je suis trop contente, c'est le meilleur truc qu'on puisse me dire, franchement. C'est que ça marche, quoi, ce que je montre. Mais tu vois, il y a des femmes qui m'ont dit que c'était le tome 2, ça les a heurtées.
C'était trop,
Et donc, je me suis dit, bah là, ça marche pas. Mais bon, chacun a ses sensibilités, et chacun...
Bah, du coup, c'est la question plus générale d'un féminisme plus radical, des choses comme ça. Ouais. Donc, c'est parce qu'en fait... Ça vient pas. Tu sais que c'est pas que de la fiction, en fait, et que ça vient résonner sur des questions et des réponses dans la vie réelle aussi, quoi.
Mais donc après, c'est des personnes qui se disent. Enfin, la personne qui m'a dit ça, elle disait aussi. Ça m'a questionnée sur pourquoi, en fait. Elle disait, je sais rationnellement que c'est pas pire que ce que j'ai l'habitude de voir dans des séries et tout, de violence des hommes envers les femmes qui sont 10 fois plus hardcore. Mais bizarrement, quand on inverse les rôles, c'est hyper choquant, quoi. Et du coup, bon, ça l'a questionnée, mais. Bon, ça n'a pas fait le truc de catharsis que... Bon, mais c'est chacun...
c'est une réaction qui est propre
à... Mais ce que je pense, c'est quand même qu'on a tous et toutes de la violence à l'intérieur de nous.
Ouais.
Et ça, c'est quand même un truc où on peut se poser et se dire, ok, j'ai de la violence à l'intérieur de moi, quoi.
Ouais.
Il y en a, en fait. On en a tous.
Ouais,
et comment on l'exprime, c'est vraiment ça, quoi.
Comme je t'ai dit, c'est l'effet que ça m'a fait de me dire. Puis déjà, il y avait la réaction de la personne qui était avec nous à la précédente rencontre. Ah ouais, c'était pas que dans ma tête, quoi.
Ouais.
Je pense que rien que ça peut soulager, effectivement. En plus d'avoir des modèles plus forts et plus combatifs.
Oui. Ouais.
Je pense que c'était vraiment un ensemble de choses, quoi. Yes. Et autre chose que je voulais dire, d'une manière générale, il y a aussi. Beaucoup d'humour dans les deux BD, je trouve. Parce que, enfin, de mon point de vue, moi, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que Cypri, elle tente des trucs, mais elle est comme nous, elle est comme tout le monde. Tu sais, c'est pas une grande athlète, ni une héroïne de comics. Alors, surtout dans le tome 1, dans le tome 2, elle est déjà plus entraînée. Mais du coup, elle tente des trucs, mais elle se rate. Et je trouve qu'il y a des mises en scène qui sont hyper drôles. Elle essaye de retrouver le gars qui l'a agressé verbalement de manière très violente, mais sauf que, faut escalader un mur pour aller jusque chez lui. Alors, c'est parce qu'elle a des murs. Puis sa Cyprine, elle la maîtrise pas. Et du coup, ça donne des situations hyper drôles. Je me suis dit, si j'essaye de faire ça tout de suite, là, comme ça, il se passe la même chose, quoi. Je vais me rater. Et je me suis demandé si cet humour-là, enfin, je sais pas si tu l'as pensé comme un humour, mais si c'est. C'était quelque chose, c'était venu tout seul, ou tu t'étais dit, oula, mon histoire, c'est super sérieux, faut que je contrebalance avec de l'humour, ou c'est ton humour naturel à toi ou...
Je suis pas sûre qu'on dirait de moi que je suis la personne la plus drôle. Mais c'est drôle, tout le monde m'a dit qu'il y avait de l'humour. Je pense qu'inconsciemment, j'ai essayé de contrebalancer.
Ouais.
Enfin, j'avais envie que ce soit une histoire qu'on ait envie de lire.
Ouais.
Enfin, même moi, en fait, les histoires trop dures, il faut juste qu'il y ait un moment où on digère le truc, quoi. Sinon, c'est trop lourd.
Ouais.
Je voulais pas de lourdeur, je voulais de la légère.
Ouais.
Je voulais paradoxalement que ce soit léger.
Ouais.
Bon.
Ouais, ouais. Non, mais si, moi, je trouve qu'il y a plein de temps.
Bah, c'est cool.
On y va avec elle. Tu sais, c'est super surpris. Non, mais en fait, c'est un être humain. Nous aussi, on se rate des fois. Tu sais, ça marchait pas bien. Autre chose que je voulais mettre en avant aussi, c'est limite plus une remarque personnelle, mais pourquoi pas. En fait, on en a déjà, par des cheminements, déjà un peu parlé, c'est qu'au-delà des aventures directes de Cypri et de ses camarades, t'as mis beaucoup d'éléments à l'intérieur, quoi. Il y a beaucoup d'éléments dans chacun de tes tomes. Comme on le disait au premier tome, on parle tout de suite de désir sexuel, tu parles de masturbation, il y a même un petit schéma de l'anatomie
du vulve
dans les... Ouais, dans les toutes premières pages du tome 1, on y va, tu vois. On va parler de différentes orientations sexuelles. Plus dans le tome 2, il y a la construction d'une famille qu'on se choisit aussi avec les personnages du cabaret. On parle d'écoféminisme dans le tome 2. Il y a plein de il y a des références littéraires, pareil, au fil des dessins qui sont parsemés. Voilà, tout ça pour dire que c'est une BD qui est vachement... Enfin, les deux tomes sont des BD qui sont vachement riches. Moi, c'est quelque chose qui m'a plu parce que... C'est une BD qui a un format de tranche de vie, je peux dire ça comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est pas une vie banale, on s'entend. Et c'est un projet finalement assez ambitieux, moi, je trouve. Comme je l'ai répété déjà plusieurs fois, qui donne envie de creuser beaucoup de choses. Et il y a plein d'éléments annexes qui peuvent être creusés. Mais comme on en a déjà parlé, en fait, t'as pensé à plein de trucs et tu les as mis. Et,
ouais.
Ouais, vraiment, c'est vraiment... c'est entre guillemets, air de tranche de vie, il y a tellement de choses riches. Enfin, je le dis aussi pour des gens peut-être qui n'auraient pas l'habitude de lire ce format de fiction. La tranche de vie, c'est un prétexte pour aller explorer tellement de choses. Moi, c'est pour ça que je voulais parler de cette BD aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions de fond. On va pouvoir passer aux questions de forme sur la BD, parce que moi, j'ai plein de questions sur tes inspirations et tout sur l'édition. Mais avant ça, on fait une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8. On va écouter tout de suite Si j'étais un homme de Chilla et on se retrouve juste après.
Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah, ah, ouh. Si j'étais un homme, ah, ah, ouh. Je pisserai contre les murs. Je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme. On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la pence. C'est dans la nature, le mal est dominant. Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferai des promesses que je ne saurais tenir. Te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Triste aléa du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos?
si j'étais un homme, ah, ah, ou, si j'étais un homme, ah, ah, ou, si j'étais un homme, ah, ah, ou, si j'étais un homme, ah, ah, ou. Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Oh, oh. Si j'étais un homme, si j'étais un homme, mais je ne le suis pas.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans l'apérophonie, en compagnie toujours de Tess Kinski, autrice de bande dessinée grenobloise. On parlait des aventures de Super Cyprine. On a bien fait le tour du fond avant cette petite pause musicale. Et là, moi, j'ai des questions. Déjà, est-ce que tu as des inspi de BD quand tu fais tes BD ?
Oui.
Ouais.
J'adore la BD américaine. J'adore Daniel Clowes, c'est un mec qui a écrit la BD Ghost World, qui est ma BD préférée, qui a été adaptée en film. On suit deux jeunes femmes qui sont hyper cyniques et tout. Mais c'est pas vraiment l'histoire, c'est plus vraiment son dessin que j'adore.
Ouais.
Après, j'ai commencé à... en fait, quand j'étais petite, je lisais beaucoup de BD, genre Titeuf, Petit Spirou et tout. Après, j'ai arrêté et j'ai repris... Parce qu'une amie lisait beaucoup de romans graphiques et j'ai commencé par Julia Vertz qui raconte ses déboires à New York dans sa vie étudiante. Et ça, c'est extrêmement drôle. Et j'adorais son dessin, mais c'est vachement simple, mais c'est très graphique. Ouais. C'est noir et blanc, j'adore. Et c'est vraiment drôle. Enfin, toutes les BD de Julia Vertz, c'est de la bombe. Allez-y, lisez-les. Et après, il y a toute la vague d'autrices françaises, belges, et canadiennes, qui sont allées vivre au Canada, mais Julie Delporte, Myriam Malle, évidemment, Pénélope Agieux, il y en a plein d'autres, ouais, mais ça, c'est les trois qui me viennent en tête.
Ouais, et du coup, c'est un truc que j'avais déjà fait la réflexion, mais quand j'avais lu TBD, je connaissais déjà Myriam Malle, et je me dis, ah tiens, ça me rappelle Myriam Malle, si jamais ça parle à des personnes qui nous écoutent.
Mais en plus, elle vient de sortir une BD que j'ai pas encore lue, qui s'appelle Clémence en colère, et ça parle justement de cette colère qu'on a, mais elle le traite d'une manière... Elle est beaucoup plus poétique et douce, elle a un dessin très particulier. Et après, il y a Julie Delporte, elle, c'est complètement différent. C'est des récits un peu intimes de vie, mais je sais pas, son dessin, c'est dingue, sa façon de raconter, ça me touche. Et Pénélope Agieux, on ne présente plus, elle est juste trop forte. Enfin, j'adore comment elle raconte en fait ses histoires. Elle pourrait me raconter n'importe quoi, je m'en fous, j'adore comment elle raconte.
Ouais.
Et son dessin aussi, il est hyper expressif. Enfin, elle est vraiment, vraiment douée. Enfin, c'est un. C'est vraiment un truc que je regarde chez elle, c'est le rythme narratif, quoi. Elle est trop forte. Myriam Malle, j'adore son dessin, j'adore son écriture, c'est vraiment très artistique. Et Julie Delporte, c'est pareil, c'est très intime, très doux, très... Et après, il y a... Ouais, ça dépend, je m'inspire de plein de choses pour différentes raisons, quoi.
Ouais,
les Américains, c'est plus le noir et blanc, la technique de dessin, et les Françaises, c'est plus pour la façon de raconter, ouais.
Ouais, ça marche. Et comment t'en arrives à la BD, toi ?
Ouais.
Parce que du coup, Super Cyprine, c'est les deux tomes, c'était deux premières publications. Tant que telle. Et du coup, comment t'es arrivée à la BD avant
Je suis arrivée à la BD pour écrire Super Cyprine.
Okay.
En fait, j'avais pris un an sabbatique parce que j'étais chef de projet avant dans une boîte à Paris. Et je prenais des cours de peinture.
Ouais.
Et en fait, je voulais faire de la peinture. Et j'en avais parlé à la rencontre, mais je voulais peindre des hommes parce que je voulais travailler sur le désir féminin, on va dire. Mm-hmm. Je sais pas si je le redirais comme ça maintenant, mais c'est encore ce truc d'inverser le regard, quoi. Je pense qu'on est quand même vachement éduqués à être désiré. On réfléchit toujours à notre apparence. On a besoin d'attirer le regard des hommes. Bon, c'est la construction hétéro, d'accord. Ouais. On sait pas trop regarder les hommes, quoi. Enfin, non, j'ai l'impression. Enfin, ça, c'est une analyse totalement personnelle. Elle est sûrement bancale, hein. Et du coup, je voulais travailler le regard qui va vers l'autre, en fait.
Ouais.
Et pas qu'on reçoit. Et le désir actif, quoi, le regard actif. Parce que moi, j'ai toujours aimé regarder les hommes, genre, je sais pas, des parts, ça m'a toujours fasciné, quoi, leur corps et tout. Et voilà.
Ouais.
Et donc, je voulais faire ça, je voulais peindre, en fait. Je peignais des fesses d'hommes, en fait.
Yes.
Et du coup, ça m'a saoulée parce que j'étais trop en colère. Et je me disais, je peux pas continuer de sublimer le corps des hommes avec cette idée d'avoir, de représenter aussi des hommes doux. Une autre. En fait, les hommes, ils sont pas représentés par les femmes. Et je retrouvais des hommes représentés grave dans la culture gay. Mais il y a une esthétique très particulière, en fait. Qui est pas l'esthétique, enfin il y a pas d'esthétique hétéro, mais enfin je me reconnaissais pas dans le regard que
ça te parlait pas, quoi.
Et en plus je pense qu'on a tout un regard différent, enfin je peux même pas dire que j'aurais pu régénéraliser, mais juste proposer en fait un regard.
Ouais, c'est ça, c'était ta démarche à toi, voilà. C'était bien ça.
Du coup sauf que, et donc voilà, moi ce que je voulais c'était plutôt essayer de de rendre sensuel des corps qui sont pas les stéréotypes, quoi, des mecs ou dans l'esthétique hétéro, on pourrait, je sais pas, parler de Fast and Furious, je sais pas, je vais dans les trucs,
mais je vois, ou même les mecs photos de, pour les sous-vêtements,
ouais, là, voilà, tous ce genre de
muscles,
de
jeunes,
voilà,
blancs,
c'est ça,
ouais,
exactement,
ils ont vraiment tous le même corps, quoi,
et du coup voilà, et du coup voilà, j'avais envie de montrer ça, sauf que voilà, j'étais trop vénère, et du coup je lisais beaucoup. En fait, c'était l'époque là où je lisais Myrion Malle, tous les romans graphiques à fond. J'étais vraiment à fond dans la BD et je trouvais que c'était une forme d'expression artistique hyper libre, hyper intéressante. Moi, je galérais aussi à expliquer ce que je faisais aux gens autour de moi dans la peinture et je me disais, si je raconte une histoire, au moins je peux exprimer, dérouler le fil d'une pensée avec des mots, ce qui m'aiderait beaucoup. Et je pense que c'est parce que j'étais pas assez avancée dans ma réflexion et aussi peut-être dans ma technique de dessin, de peinture, pour que ce soit compréhensible ce que je faisais. Et du coup, j'ai dû m'aider des mots. En fait, c'est plus dans ce sens-là que c'est arrivé. Et en plus, j'étais hyper enthousiaste de toute cette nouvelle vague féministe dans la BD qui arrivait. Vraiment, j'étais à fond. J'étais là, mais c'est trop bien. Et j'aime trop rentrer dans le monde des artistes et dans leur monde des mots, d'expression, de dessin, de comment raconter des histoires. Enfin, je trouve que ça va dans plein de niveaux, en fait, la BD. Enfin, c'est trop enthousiasmant. Et c'était un champ aussi que je connaissais pas, donc j'avais aucune pression. Ça, c'est plus personnel.
Ouais.
J'avais pas de ref où je me disais, waouh, cette personne est trop forte, je pourrais jamais faire. Par exemple, moi, j'ai été éduquée dans la musique. Mon identité, en vrai, c'est la musique.
Ouais.
Mais il y a trop de pression familiale, il y a trop de pression, je pourrais pas faire de la musique, en fait. Mais c'est comme ça que j'ai grandi. Alors que la BD, c'est le seul truc où personne connaissait autour de moi. Enfin, j'avais pas de pression associée à rien. Et du coup, pour moi, c'était un champ libre. Et du coup, j'ai trouvé ça trop, trop bien de pouvoir jouer avec les mots et le dessin.
Mais oui, ça me fait penser à un truc que je te disais en off, c'est que moi, quand j'ai lu, il y a un petit élément dont j'avais pas mentionné, c'était dans le tome 1, tu te mets en scène comme plasticienne à succès avec une grosse expo au Centre Pompidou. Alors, c'est un élément un peu annexe qui est en fond d'une conversation qu'ont les protagonistes qui sont là. Mais du coup, moi, j'avais trouvé ça hyper drôle et je m'étais dit, mais vas-y, mais moi aussi, je vais écrire une BD, un récit, puis je me mets en scène, c'est trop sympa. Et je disais ça parce que, bon, aussi, tu vois, on s'est un peu part dans tous les sens. Parce qu'effectivement, moi, je ressens dans ces BD ce que tu dis, où je pense que tu n'avais pas de pression à faire, c'est tu as tout mis, tu as mis tout ce que tu voulais dedans, j'ai l'impression. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, tu sens que tu as tout mis et que tu t'es fait plaisir, quoi. Et moi, perso, ça m'a un peu donné envie aussi de me lancer. Alors, je sais pas si je le ferai, tu vois.
Trop de la bombe.
Je te dis ça, mais je sais pas si je vais le faire.
Oui,
ok.
Mais... non, je sais, mais déjà,
mais si ça c'est vraiment envie. Genre, ouais. Mais vas-y, moi aussi j'ai envie d'essayer en fait.
Ouais. Ouais. Bah vas-y. Hein. Non, mais c'est trop bien. Enfin. Ouais. Et
parce que tu dis, ouais, j'ai des choses à dire et des fois le format, oh, il est pas assez, j'ai pas assez creusé le sujet, ou alors mon format il est pas assez sérieux, t'es, tout de suite je me mets des pressions sur des trucs. Et là je me suis dit, mais vas-y, j'ai envie d'essayer, c'est trop drôle. Juste ça, c'est vraiment ce. Alors il y a plusieurs éléments, mais en particulier cet élément que j'ai trouvé drôle et efficace, efficace parce que en plus la mise en scène de. Je vais pas spoiler, vous irez lire, mais la mise en scène de l'expo, elle est sorte à une idée dans l'idée, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, vas-y, moi aussi j'essaye, c'est trop cool. Ouais.
Bah ouais, vraiment la notion de plaisir, parce que du coup, comme j'avais pas de pression, je me suis vraiment dit, vraiment, même à partir de mon premier jet, quand je me suis dit, tiens, ça va se passer au cabaret de Madame Arthur, je me suis vraiment dit, fais-toi plaisir.
Ouais.
Parce que quand j'étais petite, j'écrivais. Bon, il y a un truc qui, depuis que je suis toute petite, c'est que j'écris des histoires. J'ai toujours aimé ça. Sauf que je m'arrêtais hyper vite. Je sais pas, j'ai jamais fini d'histoire, en
fait. Ah ouais.
Et du coup, là, je me suis dit, pour que tu finisses ton histoire, faut vraiment pas que tu te foutes de pression de rien. Juste fais-toi kiffer, quoi.
Ouais.
Et je sais pas pourquoi ça a marché. Parce que c'est hyper dur de dire, vas-y, fais-toi kiffer. Et en fait, t'es là, je sais pas par où je commence.
Ouais.
Que... Et en plus, j'ai... Enfin... Mais là, c'est trop bien. Tu peux te servir des mots, des dessins. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a vraiment une liberté, quoi, dans la BD où... Si tu maîtrises pas le dessin, bah tu t'aides des mots. Si les mots, tu galères, tu peux te servir du dessin. Enfin, c'est toujours un peu une balle qui se renvoie comme ça. T'es pas obligé de maîtriser parfaitement l'un ou l'autre. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Après, ça sent. Hein. J'ai pas un dessin de dingue. Mon écriture, elle pourrait être hyper, évidemment, travaillée.
Ouais.
Mais par contre, la liberté, ouais, ça, c'est vraiment de me faire plaisir. Et ça, je trouve que c'est important, même c'est politique, quoi, en tant que femme, de dire, ok, je vais me faire kiffer.
Bah,
c'est quoi, en fait, un endroit où je me fais kiffer, quoi, complètement, librement, en fait.
Bah, je suis contente que tu nous parles de ça, justement, parce que moi, ça a eu cet effet-là sur moi, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de parler de la BD dans une émission. C'était communiquer cette envie. Genre, si ça a eu cet effet sur moi, c'est sûr que ça va avoir cet effet sur d'autres personnes. Du coup, c'est que les personnes nous écoutent vont autant kiffer lire la BD que se dire vas-y, moi aussi je tente des trucs au sens large, tu vois, en BD ou autrement.
Moi je trouve que c'est le truc le plus puissant qu'on puisse dire de mon travail parce que j'adore les auteurs, les autrices qui me donnent envie d'écrire, genre Patti Smith, elle me donne envie d'écrire. Alors bon, évidemment, j'ai trop pas enfin bref.
Oui, mais du coup tu vois, tu t'es lancée quand même.
Moi c'est ça que je vois, que ça allume, et c'est trop un plaisir
et ça fonctionne, quoi. Parce que tu t'es lancée et ça fonctionne. Je sais que ton premier tome est sorti d'abord en autopublication.
Oui.
Ouais, du coup, ça c'était ton objectif
Non, c'était subi. En fait, j'ai commencé à faire ma BD, il y a eu le Covid.
Ouais.
Et là, j'ai commencé à lire plein d'articles sur le milieu de l'édition qui disaient là, on publie plus rien, on va se concentrer sur nos auteurs à succès, même eux, on va devoir rationner et tout. Enfin, c'était la merde, quoi. Et moi, j'étais là, genre gros stress, qu'est-ce que je fais? Et j'ai un cousin qui fait de enfin, maintenant, il a une maison d'édition, mais il a commencé comme ça. Et il fait que des campagnes de crowdfunding. Sa maison d'édition, c'est Bande Détournée, c'est lui qui a fait l'effondrement, Pôle emploi. Enfin, bref, maintenant, il.
Ouais, ok, oui, oui. Ouais.
Et lui, il me disait vachement, pardon, de m'auto-éditer. Moi, j'étais à non, j'ai pas envie, je sors d'un milieu où j'ai fait que de la com, j'ai pas envie de faire de com. J'ai vraiment envie de faire que de la création. Il était là, ouais, mais c'est un vieux monde, l'édition. C'est chiant, tu subis et tout. Bon, là de toute façon j'avais plus le choix, j'étais obligée de faire l'auto-édition parce que je voulais pas attendre, je voulais vraiment que ça sorte.
Ouais.
En fait, je voulais que Super Cyprine existe. Enfin,
ouais.
Ça c'est vraiment pas lié. Autant l'ego trip là dans l'expo, Teskinski dans le livre, ça c'est un ego trip total, ça m'a juste fait trop rire.
Ouais.
Par contre, vraiment Super Cyprine, je sais pas comment dire, mais c'est détaché de tout mon ego, mais je pense que c'est très important que ça existe, quoi.
Ouais.
Et donc du coup j'étais vraiment pressée, quoi, il y avait une urgence. Et du coup, j'ai fait de l'auto-édition, donc ça a été cool. J'ai été aidée par mon cousin. Et après, en fait, une fois que j'ai imprimé mes livres, j'ai été invitée par un concours de circonstances totalement hasardeux à un festival à Paris féministe, en fait.
Ouais.
Premier festival, un énorme truc et tout. J'étais entourée de plein de gens qui faisaient de l'illustration de la BD. Et genre, j'ai grave vendu. J'ai vendu, mais de ouf. Et à côté de moi, il y avait une maison d'édition... qui est venue voir ce que je faisais. Elle dit, ah, tu cherches pas une maison d'édition par hasard? Et j'étais si, parce que je vais pas être capable de distribuer dans la France entière, je vais pas être capable de communiquer dessus de manière puissante. Et du coup, ils ont repris ma BD, ils l'ont éditée, donc c'est Masso Édition, ils sont trop cool.
Ouais.
Et du coup, voilà, j'ai fait la deuxième avec eux, c'est ça le parcours.
Ouais, trop cool. Est-ce que tu envisages une suite pour Super Cyprine ?
Oui, là, j'aimerais finir le triptyque. J'ai déjà écrit le troisième tome, mais là, je fais une pause parce que j'ai envie de me remettre des... Enfin, j'ai envie de travailler mon dessin. En fait, j'ai besoin d'autres projets là pour, enfin, pour aller plus loin. Parce que là, ça fait 4 ans que je bosse que sur Super Cyprine, quasiment en apnée. Ouais. Et j'avais besoin de respirer. Et donc, j'ai envie de faire plus des commandes. J'avais bossé déjà avec des assos à Grenoble sur des commandes de BD reportage ou de mettre en dessin des témoignages ou des projets ou des histoires comme des combats ouvriers et tout. Et ça, c'est un truc que j'adore faire. Et j'ai vraiment envie de faire ça là, en ce moment.
Ouais, il y en a qui vont sortir prochainement. Il y en a que tu as envie de mettre en avant, peut-être
Non, là, si, là, je travaille sur... mais c'est un tout petit truc, mais c'est sur... je suis allée... dans une ferme, en fait, et je suis en train de travailler sur une petite BD qui raconte comment on fabrique le fromage. Enfin, ça part, mais c'est une ferme trop... qui fait vraiment les choses bien. Et c'est intéressant parce que je suis végétarienne et du coup, ça m'a questionnée sur vachement de trucs. Sur le fait de ne pas être végane, enfin, d'être végétarienne et de manger du fromage. En fait, quand tu vois comment c'est fabriqué, bah, en fait, bref, c'est trop intéressant. C'était trop... Et les gens qui bossaient dans la ferme, ils avaient toutes ces questions-là, en fait, auxquelles ils étaient confrontés. Et c'était des gens qui avaient réfléchi à tout ça, qui n'étaient pas végétariens, mais qui comprenaient grave ce que je disais. Enfin, c'était trop riche, en fait, notre échange. Ça m'a fait vachement réfléchir. Et ça, c'est trop cool. Mais on va pas le ressentir, la BD. Là, c'est juste que je m'entraîne et
ouais,
à faire
de
la BD reportage pur sur place. Et du coup...
Si on peut faire appel à toi.
On peut, oui. Appelez-moi, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore juste écouter des gens me raconter ce qu'ils font, que ce soit leur métier, une histoire, un projet, un combat, n'importe quoi. Et moi, que je le mets en dessin, en récit, franchement, je pourrais faire ça toute ma vie, j'aime trop. Et ça me fait du bien, en fait, de me nourrir d'autres choses. Là, j'ai besoin de me nourrir, en fait.
Ouais, ça marche.
Voilà.
Ouais, ok. Néanmoins, désolée, du coup, je vais quand même rebondir sur... T'as écrit donc un troisième tome qui, du coup, va clôturer les aventures de Super Cyprine. Est-ce que tu... Alors là, on a compris que tu avais besoin de bosser sur autre chose, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu as une idée de quand tu voudras le sortir ?
Ah non.
Ok, pas de souci.
Je ne sais pas.
Ça marche.
Ouais, ça va aborder encore une autre forme de... Ouais, de violence. Mais après, j'aurais fini de parler de ça.
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais, la suite et fin de tes questions à toi, quoi.
Ouais, exact. Enfin, peut-être pas, mais...
Ouais. en tout cas,
mais
à travers...
j'aimerais bien que ce soit un triptyque, ouais, Super Cyprine, avec encore une dernière phase de questions que je me pose, d'exploration de... Ça tourne plus autour de l'écoféminisme, qui est vraiment un champ qui m'intéresse de ouf. Enfin, un champ sans mauvais jeu de mots, mais un milieu qui m'intéresse.
Ça marche. J'ai vu que le week-end qui arrive, tu seras à Grenoble sur un festival, tu peux nous en parler ?
Oui, à la capsule. Eh bien, c'est le festival de BD de Grenoble, il y a plein de gens trop cool et ça dure 2 jours, donc c'est le 1er et le 2 juin, c'est le week-end prochain qui arrive. Et voilà, c'est à la capsule, je sais plus ce que c'est l'adresse exacte, mais
moi
c'est
non plus.
Cabernet-Boissieu, je crois.
Ouais. Donc dans Grenoble.
Voilà, dans Grenoble. Et ça dure c'est toute la journée jusqu'à 18h.
Donc toi, tu seras, tu auras un stand avec tes BD.
Ouais.
Et tu participes à une table ronde, si
j'ai
bien vu.
Oui, exact, à 16h.
Et le samedi. Le samedi à 16h, c'est une table ronde justement sur la place des femmes dans le monde de la BD.
Ouais.
Dans le monde de la BD, sera aussi en compagnie de 2 autrices, j'avais noté leur nom, Manon Ita et Laila Banabid.
Ouais.
Pour cette table ronde de 16h à 17h le samedi 1er juin. Est-ce que t'as d'autres choses dont tu veux nous parler, d'autres événements à nous annoncer
Non, je pense qu'on a bien retracé tout. Ah si, j'ai un autre événement. Je vais animer un atelier BD dans le cadre du Printemps du Féminisme à Grenoble.
Ouais.
Le 27 juin, si je ne me trompe pas. Et je vais apprendre à faire un tout petit strip parce que ça dure 2 heures, c'est vraiment hyper court. Mais le thème, ce sera justement comment répondre à une situation où on est... Comment... imaginez un alter ego, un peu le même exercice que Super Cyprine, pardon, j'ai touché le micro.
Et non,
ou voilà, qu'est-ce que c'est dans l'imaginaire de répondre à une situation où d'ordinaire on saurait pas trop quoi répondre, quoi.
Ok, cool.
Voilà.
Et à, du coup, t'as dit que c'était à Grenoble et c'est...
Ouais, c'est à la métro.
À la métro.
Ouais, okay, dans les locaux de la métro.
Donc c'est le printemps du féminisme.
Ouais.
Ok, dans les locaux de la métro
ouais.
à Grenoble.
Ouais.
Aux alentours du 27 juin.
Et ce sera le 16 à 16h, le 16 à 18.
Ça marche.
Je crois que c'est un jeudi. Et ouais, venez dessiner.
Venez dessiner, cool. Ouais. D'ailleurs, ce week-end au Festival de BD, il y a aussi des... Alors, toi, tu les animes pas, mais il y a aussi des ateliers de dessin.
Ah oui, oui.
Intéresser des personnes. Mm. Ok. Bah, je crois qu'on arrive à la fin de cette interview. Bah, merci, Tess, d'être venue passer du temps avec nous sur Radio Campus.
Bah, merci de Grenoble. Tout avoir analysé mon travail et de m'avoir écoutée.
Du coup, je vous rappelle que sont actuellement sortis 2 tomes de Super Cyprine, jeune héroïne parisienne à la Cyprine corrosive, chez les éditions Masso. Les 2 tomes, je donne l'info, au cas où ça intéresse. Quand les gens sont au courant. Les 2 tomes sont disponibles en librairie au prix de 19,50€ et 19,90€. Et j'en profite pour passer un clin d'œil à le café-librairie féministe Luna, qui est avenue Alsace-Lorraine à Grenoble, chez qui vous pourrez vous procurer ces BD, justement parce que c'est grâce à cette librairie que je trouve que j'ai découvert le travail de Tess, et je trouve la librairie géniale et c'était une super opportunité. Allez-y faire un tour, c'est vraiment cool.
Ouais, elles sont géniales.
Elles sont super, elles sont géniales. J'ai pas d'autres mots, elles sont géniales, allez faire un tour.
Ouais.
Leur achalandage est hyper soigné, ouais. Hyper bien pensé, t'as envie de tout acheter. Allez vous offrir une petite boisson chaude là-bas, c'est un endroit super. Mm. Je voulais dire aussi que les 2 tomes de Super Cyprine sont disponibles sur le réseau des bibliothèques de Grenoble. Je
oui.
sais pas si t'avais
oui,
vu.
Oui, si, ouais. si.
En l'occurrence, à la bibliothèque du Centre-Ville, à la bibliothèque des Eaux-Claires-Mistral et aussi à la bibliothèque de l'ESAD, l'École supérieure d'art et design, qui est accessible avec une carte de bibliothèque du réseau. Et l'inscription au réseau des bibliothèques de Grenoble est gratuite pour tout le monde, même si que vous soyez de Grenoble ou non. C'est beaucoup de Grenoble dans la même phrase, mais voilà. En tout cas, on rappelle qu'on peut te retrouver ce samedi 1er juin au Festival de BD de Grenoble à Cap-Béria. Enfin, tu seras samedi et dimanche.
Ouais.
Ouais, tu seras samedi et dimanche en présence. Et le samedi à 16h, tu participes à une table ronde sur la place de la femme dans le monde de la BD en compagnie de Laila Benabid et Manon Ita. De nouveau, tu seras aussi au printemps du féminisme de la métro de Grenoble le 27 juin de 16h à 18h où tu animeras un atelier justement de strip
ouais.
autour de...
Pardon, ouais, de la catharsis ouais. quoi.
Ça marche.
Et... Juste de se faire plaisir.
Et voilà. Et bah du coup, encore une fois, merci d'être venu.
Merci de m'avoir reçu.
Hier. Yeah. Je te souhaite une bonne continuation.
Vous aussi.
C'est la fin. Yes, merci. C'est la fin de cette apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8 que nous venons de passer en compagnie de Tess Kinski, autrice grenobloise de bande dessinée engagée. Je remercie Alice d'avoir assuré la technique de cette émission. Bonne soirée tout le monde. Bonne fin des programmes. Salut.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !